Net Plus Ultra.
When the sun rises, the day begins.
Bonjour, le livre électronique arrive. Oui, d'ailleurs, depuis le temps qu'on nous le promet, on se demandait quand est-ce qu'on le tiendrait dans nos mains. On avait certes découvert ici le fameux e-book en avant-première au Salon du Livre à Paris. Là, on apprenait qu'on pourrait télécharger l'équivalent d'une dizaine de livres sur une même plateforme portative. Magique. Mais depuis, l'objet convoité se faisait attendre. Un objet pas tant convoité par les écrivains que par des start-up voraces du verbe, des sociétés informatiques à l'assaut de la culture, Microsoft en tête bien sûr. Alors le livre électronique, encore nouveau-né, pas encore sûr de ses premiers gestes, pas encore bien nourri, ce bébé-là fait tout de même beaucoup parler de lui. Tout est relais du concept accrocheur de l'interactivité et des nouvelles technologies. Mais finalement, ce n'est pas tant le livre qu'on interroge aujourd'hui que la lecture. Car est-ce que la lecture va s'en trouver changée, notamment grâce à la généralisation de la pratique hypertexte sur un format portatif standard qui plus est? C'est ce qu'on peut supposer. Mais, d'un autre côté, est-ce que le bouleversement tant annoncé du livre électronique n'est pas déjà une révolution avortée? Au mieux, un gadget coûteux? Pour nous en parler, nous avons choisi la voie des auteurs. La vie de ceux qui font des livres, pas encore électroniques, en tout cas pas tout le temps. Ainsi, nous recevons l'académicien Eric Orsena, véritable ambassadeur du livre électronique, en tant que vice-président chargé des affaires culturelles du groupe Cital. Il s'agit de la société qui s'apprête à commercialiser le C-Book, premier modèle du genre, à apparaître en France dès le mois de janvier. À nos côtés aussi, l'écrivain et philosophe Michel Onfray. Michel Onfray qui fera office de Candide, finalement, dans cette découverte du livre électronique. Ensemble, nous allons tenter d'ausculter ce phénomène de silicium. Et s'il le faut, nous allons même en écorner quelques pages. Ariel Kirou, bonjour. On va pas manquer à nos devoirs habituels et hebdomadaires et aller sur le front du web. Microsoft, encore sur la sellette, avec Bill Gates qui s'apprête à payer une dette de 97 millions de dollars à ses employés.
C'est ce que vous avez dit, sur la sellette, c'est leur rêve. Malheureusement, la justice américaine avait dit qu'il ne pouvait pas être seul.
Et c'est justement là, cher Jean-Philippe, cher Eric, le grand problème. Eh bien oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Bill Gates avait ou a des employés, et ils sont beaucoup. Le problème, c'est qu'un grand nombre de ces salariés permanents n'avaient pas de retraite, pas de stock option, pas d'assurance sociale. En 92, ils ont intenté un procès et ça y est, la procédure vient d'aboutir et donc ces 97 millions de dollars risquent d'être distribués à ces salariés de Microsoft.
À noter que c'est le plus grand procès du genre qui finalement jamais eu lieu aux États-Unis. Voilà un jeune homme qui aurait mieux fait de ne pas se vanter des prouesses sexuelles de sa petite amie. Une bête de sexe en ligne, mais maintenant tout le monde le sait, ça se passe en Angleterre et c'est un avocat qui risque maintenant d'être rayé du barreau pour une histoire finalement érotique que tout le monde connaît ou presque.
Alors Jean-Philippe, cet avocat anglais s'appelait Bradley Chate, donc un joli nom, et puis un jour il reçoit un message de sa dulcinée qui est vraiment ébahie, vraiment ses prouesses sexuelles, c'est extraordinaire, puis elle racontait ça avec un tel talent. Que ce brave Brett Chet était d'une telle fierté qu'il l'a envoyé à six copains. Six de ses amis par le nez, ils ont regardé un peu comme je suis fort, comme je suis beau. Et puis ces six copains ont trouvé ça tellement génial, tellement formidable, tellement excitant, qu'ils l'ont envoyé encore à six copains, et puis peut-être six autres encore, et puis de fil en aiguille, en fait, tout le barreau a été au courant. C'est même remonté jusqu'à la direction informatique donc du cabinet, qui en a parlé à la direction de Bradley Chet. Et ainsi, ces exploits sexuels sont devenus un phénomène, un événement, un film. Le seul problème, c'est que les échanges de mails personnels par les employés sont interdits. Alors, quelle va être la fin du film, on ne sait pas.
C'est comme ça qu'il a été rayé du barreau.
Le divorce pourrait par contre être consommé entre Universal, maison disque, major qu'on ne présente plus, vu d'ailleurs les différends qu'il opposait avec Napster, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Voilà que c'est Universal qui est attaqué par les ayants droit d'Elvis Presley, ni plus ni moins.
Alors, l'histoire commence sur un site, farmclub.com, visiblement destiné aux fans d'Elvis Presley. Et les gens qui s'occupent de ce site, hein, qui dépendent d'Universal, ont donc mis plein d'extraits. Quoi. Ils sont beaucoup amusés, ça fait de la musique dans tous les sens. Le seul problème, c'est que les ayants droit d'Elvis Presley, Elvis Presley Musique, et puis les compositeurs, hein, Jerry Leiber, Mike Stoller, tous ces gens-là, n'ont pas apprécié du tout. Et ils menacent de faire un procès contre Universal. Par ailleurs, Grand Dragon qui se bat pour le respect des droits d'auteur, les siens. Sur le net.
Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Samedi dernier se tenait à Paris la Zélig Conférence. Et dans le cadre de la Zélig Conférence, on avait un petit peu évoqué cet événement, mais vous y avez été directement, Yael Kirou. Il s'agit des Big Brother Awards. Alors, c'est une remise d'Oscar, on peut dire, d'un genre un peu particulier, parce qu'en général, les lauréats ne viennent pas chercher leur prix.
Pourtant, ils ont été dûment prévenus par recommandé, comme quoi ils étaient nominés pour les Big Brother Awards. Donc ça se passait effectivement dans le cadre de la Zélig Conf, donc c'était samedi dernier. Donc les rencontres européennes des contre-cultures digitales. Eh bien,
ambiance.
Voilà.
Et le gagnant est le ministère de l'Intérieur avec le fichier SPIC.
On écoute Simon Davis, le fondateur des Big Brother Awards.
Cela fait depuis des années que nous essayons d'éveiller les consciences à propos des menaces qui pèsent sur la vie privée de chacun dans le monde. Le problème, c'est toujours de faire passer le message aux médias et aux gens ordinaires qui n'accordent guère d'importance à ce problème. Alors, nous avons eu l'idée de donner des Césars aux mauvais élèves. Nous nous sommes dit que cela exciterait tout le monde, que chacun pourrait ainsi s'amuser, se gosser de son vilain préféré, entreprise ou gouvernement. On a commencé au Royaume-Uni il y a 2 ans et l'idée s'est développée aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et maintenant en France. Cela s'étend dans le monde entier parce qu'il s'agit d'une façon simple d'exprimer une notion complexe.
Le e-book, on va dire livre électronique, mais ça y est, le mot est sur toutes les lèvres. Le e-book, par contre, n'est pas encore dans toutes les mains. Ariel Kirou, curieux objet, voire curieux fantasme, hein, quant au futur de la littérature. Mais concrètement, l'e-book, c'est quoi? Vous l'avez dans les mains, à quoi ça ressemble?
Alors ce e-book, il ressemble un peu à une sorte de grand palme pilote avec un écran assez imposant, quelque chose comme 20 cm sur 16. Il pèse donc 800 grammes, 1 kilo peut-être, on se demande, mais c'est assez lourd quand même. Hein. Alors quand on regarde le prix sur le côté, c'est un peu cher. Hein. 5700 francs, le e-book, il faut se le payer quand même. Mais bon, on se pose quand même une question. On se dit, de la même façon qu'à un moment donné, on est passé du support vinyle au support CD en matière de musique, hein, CD laser, est-ce que finalement, on ne va pas passer du livre papier, hein, qu'on connaît bien, au livre électronique bientôt.
Qu'en pensent les auteurs, qu'en pensent les écrivains? Eric Orsenna, on peut dire que vous êtes formellement engagé dans cette bataille ou dans cette conquête du livre électronique. Je rappelle que vous êtes donc le vice-président chargé des affaires culturelles chez Cital. Cital va sortir bientôt le e-book. On en parle beaucoup, on s'attendait d'ailleurs à un rendez-vous du e-book avec le Père Noël et finalement il ne sera pas tout de suite dans les hôtes, il va falloir attendre janvier.
C'est souvent le cas, d'après ce que je sais maintenant, puisque je suis entré dans ce nouvel univers de l'électronique que je connaissais assez peu, c'est souvent le cas qu'on prenne un certain nombre de retards, parce qu'il y a des tests qui sont les plus soigneux possibles, et quand on invente des choses, c'est vrai qu'il y a toujours une petite, un petit problème à régler, et qui sont maintenant réglés. Donc le e-book sera en vente le 22 janvier prochain.
Eric Orsenna, on a tenté là, avec Ariel Kirou de donner une définition de ce livre électronique et finalement c'est pas si facile que ça. Quelle serait votre définition de cet appareil?
C'est une ardoise magique reliée par le téléphone, par une ligne téléphonique à un site internet de livres numérisés, c'est-à-dire qu'on peut télécharger, c'est-à-dire qu'on peut recueillir sur l'ardoise magique.
Michel Onfray, quelle est votre réaction, comme ça, a priori, sur quelque chose qui est déjà présenté comme un mythe, mais que finalement on a peu ou presque pas encore dans les mains?
Oui, moi je crois que le e-book aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'invention de l'imprimerie. Et qu'on est vraiment tout au début. Quelqu'un qui, à l'époque où Gutenberg invente la presse à imprimer, aurait fait de la prospective et imaginé ce que les cinq siècles qui suivent auraient donné à partir de cette invention-là, se serait sûrement trompé et aurait sûrement dit beaucoup de sottises. Je crois qu'il en va de même pour cette invention, qui est assez géniale, et qui en même temps est inquiétante pour les gens de notre génération. Je dirais, moi je pense en fonction de mon éducation, je suis pas un vieux barbon, 41 ans, mais j'ai appris à écrire avec les pleins et les déliés, la plume, le papier, donc je suis d'une civilisation du livre et du papier, mais c'est une civilisation qui est morte déjà. Donc je crois que le e-book ne va pas tuer le livre est déjà mort. Donc il arrive, il y a une erreur de causalité très souvent, on dit le e-book va tuer le livre, c'est parce que le livre est déjà mort que quelque chose d'autre advient. Et nous sommes déjà dans une période que je dirais égyptienne, avec quelques scribes qui savent lire, écrire et compter, quelques-uns qui savent encore ce que ça peut signifier, et le plus grand nombre qui ne sait plus ou qui ne sait pas. Donc on arrive avec ce genre d'objet, quelque chose qui fait signe, il faudrait être spenglérien d'une certaine manière et envisager les 4 ou 5 siècles qui suivent. Je pense que c'est une révolution radicale et qu'on ne peut pas être contre, pas plus qu'on ne pouvait être contre l'électricité au début du siècle.
On a quand même l'impression qu'aujourd'hui la question du livre électronique, elle se pose plus en termes économiques qu'en termes culturels. La preuve, Microsoft, forcément, est là pour défendre son format. La culture passe en deux, on dirait. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Orsena ?
Elle passe pas en deux, c'est-à-dire c'est la technique qui permet d'aller à la culture. Donc, c'est normal que dans un certain moment, pendant un certain temps, on fasse plus attention à la technique. Mais très très vite, la question est une question de catalogue et d'animation de catalogue. L'intérêt de cette affaire, un des intérêts de cette affaire, deux, j'en vois deux. Premièrement, c'est qu'il n'y a plus d'épuisé. Quand vous avez un livre qui est un livre réel, mais qui n'est plus communiqué, la plupart des éditeurs qui ont des trésors ne les rééditent plus parce qu'il faudrait qu'ils vendent 2000 exemplaires. Là, avec les coûts de numérisation, après une centaine de téléchargements, c'est rentable. Donc vous allez de nouveau avoir disponibles des trésors qui ne sont pas disponibles.
Michel Onfray, votre réaction ?
Oui, il y a de toute façon toujours sur chaque objet un versant économique, je dirais, qui intéresse les financiers, les gens qui ont envie de faire de l'argent, et puis de l'autre côté, la possibilité pour la culture de circuler autrement et différemment. Il y a aussi aujourd'hui dans le vieux papier, le vieux livre, des gens qui s'en mettent plein les poches au passage, distributeurs, diffuseurs et quelques autres, et ça n'empêche que ce sont deux logiques qui ne sont pas forcément semblables, même si elles ont tendance aujourd'hui à se superposer. Moi je ne verrais pas un argument contre dans le fait que des gens fassent de l'argent avec ça. Bon, il y a une technologie, il y a de l'invention, il y a de la matière grise, ce sont des fricheurs, des découvreurs de nouveaux continents, donc on hésite, que ce soit coûteux, c'est moins... Ce qui m'inquiète aujourd'hui. Non, je crois qu'il faut penser en termes, essayer du moins de penser en termes de long temps et de longue durée, et que ça démarre. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas attendre d'un objet qu'il soit parfait tout de suite, et ça induit des directions qui nous permettent de voir, bon, effectivement, cette idée qu'il n'y aurait plus de livres épuisés, c'est une idée intéressante. On peut imaginer aussi que les livres qui sont des non-livres et qui existent aujourd'hui de manière abondante disparaîtraient assez rapidement et que personne n'encombrerait son e-book avec des choses qui sont destinées à la poubelle une fois lues, mais qu'en revanche, on pourrait conserver, voire persister dans le papier Bible pour sa collection de Balzac ou de Stendhal.
Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est finalement pas tant d'avoir un ou plusieurs livres sur une même plateforme, quand même évidemment c'est très pratique de pouvoir avoir 15 livres pour le poids et l'encombrement d'un seul, mais c'est peut-être pas justement de changer nos modes de lecture, j'allais dire d'écriture, en tout cas de lecture, dans le sens où l'hypertextualité, là, joue un rôle majeur.
Mais vous pouvez très bien utiliser le e-book avec une lecture très traditionnelle.
Alors puis, à quoi bon inventer le e-book pour une lecture traditionnelle ?
Mais justement, quand vous êtes loin de toute librairie et que vous avez envie de lire au milieu de la nuit, à l'autre bout du monde, un livre, l'envie d'avoir un e-book m'est venue en mars dernier. J'étais à l'autre bout du monde avant de m'embarquer. Et j'ai regardé la prise téléphonique qu'il y avait dans ma chambre d'hôtel, et je me suis dit, si j'avais un e-book, je pourrais consulter le site, choisir 3 romans de Melville et 2 de Conrad, et partir 3 semaines en bateau avec ces 5 livres.
Mais quand on part en vacances, on prend des bouquins, bien souvent, pour les lire.
Mais ça n'empêche pas d'en avoir d'autres. C'est marrant que vous voyez tout ça, vous, les spécialistes de la culture, vous voyez, et les spécialistes de la technique, voyez ça en tant que de contradiction et d'exclusion. Mais en même temps, moi je me sens, c'est vrai moderne et extraordinairement ancien. et c'est par mon ancienneté qui va basculer et renvoyer ma modernité.
Mais est-ce qu'il y a quand même pas aussi autre chose, c'est que est-ce que c'est vraiment connecté au net, par exemple? Parce qu'on pourrait très bien l'imaginer, lorsqu'on fait une lecture d'un guide de voyage, ou pourquoi pas d'un livre de Stendhal, d'avoir des ouvertures vers un autre livre de Stendhal, vers des notes d'un tel ou d'un tel, vers tel ou tel historien, et d'aller sur le net pour construire un peu tout ça. Pourquoi pas d'utiliser le e-book pour prendre des notes, pour travailler à partir de ça? Attendez, est-ce que ça est possible? Alors, est-ce que ça va être possible?
Pardonnez-moi, mais vous êtes un peu étrange, parce que quand je vous dis qu'on peut lire normalement, vous dites pourquoi est-ce qu'on pourrait pas lire ça? Et quand je vous dis que à l'inverse, l'hypertextualité, et dire ah là là, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? On peut faire les deux. Ce qui est formidable, on peut faire les deux. On peut lire tranquillement comme avant, ce qui est plutôt mon cas actuel, parce que l'hypertextualité, les savoirs orientés sur l'objet, aller brûler les étapes, d'une certaine manière, je préfère lire, moi, page après page. Encore. Mais c'est parce que je suis la vieille génération. J'aime bien la lenteur. Mais j'aime, c'est vrai, que les livres arrivent vite, et puis après, aller dans la lenteur, les avoir disponibles, et puis après, flâner. Je navigue à voile, pas avec des moteurs. Voilà, même pas la vapeur. Même pas la vapeur.
Oui, moi, pour revenir à votre question, je pense que là, en revanche, je pense que le e-book va induire des écritures différentes, des lectures différentes et des rapports à l'intelligence qui seront, ou aux concepts qui seront des rapports différents. Je relisais hier, un peu en pensant à votre émission, ce que Pierre Hadot disait du livre et de l'invention du livre dans l'Antiquité. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup de génies comme ça au XXe siècle. Hadot en fait partie. Et il a permis de penser d'un seul coup toute l'Antiquité en disant voilà comment le livre fonctionnait à l'époque. Pas du tout un livre qui suppose une lecture intérieure. À l'époque, le livre, il est fait pour être lu à quelqu'un, par quelqu'un qui transmet de manière orale. On est dans une civilisation de l'oralité. On est dans une logique du temps linéaire. La flèche classique, je dirais, Augustin, Saint-Augustin pour classe terminale, avec le passé derrière nous, le présent à l'instant et le devant pour le futur. Et c'était le déploiement du livre, le déploiement de la flèche. Ça fonctionnait comme ça. On a changé de temps, on a changé de rapport au temps. On est dans une logique un peu plus rhizomatique, pour le dire dans les termes de Deleuze. Et le rapport à la lecture par le e-book suppose une perception du temps qui est une perception rhizomatique. Disparition de la mémoire, disparition de la linéarité, ça c'est évident, mais il faut prendre acte, il ne faut pas être nostalgique et dire que c'est effectivement une révolution induite dans la manière de penser qui va se faire avec ces nouveaux objets-là. Il y aura, comme avec l'électricité, une coexistence un certain temps avec les lampes à pétrole, il y aura une coexistence avec les vieux livres en papier pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais suffisamment longtemps pour qu'on puisse avoir une ou deux ou trois générations, mais au bout d'un certain temps, on aura effectivement une révolution des mentalités induite qui sera faite par cet objet. On ne pensera plus exactement de la même manière. Pensera-t-on encore? On ne sait rien, mais sûrement pas selon les modalités d'aujourd'hui, parce que la pensée à l'époque de Platon ou de Plotin ne se fait pas sur le même terrain. Elle est orale à l'époque. Elle sera d'une certaine manière plus tard induite par les révolutions virtuelles.
Éric Orsenna.
Ce qui m'intéresse, je suis incompétent, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les nouvelles technologies changent ce qu'on pourrait appeler le propre de l'homme. Alors c'est évident en ce qui concerne la biologie, avec les travaux sur le génome et toutes ces questions-là. Mais c'est aussi évident dans les relations, comme le dit Michel Onfray, les relations avec le temps. C'est absolument central ce qui est en train de se passer. Alors on voit les enfants qui passent à la télévision, le zapping, etc. C'est-à-dire un être humain sans lenteur. Comment peut-on s'approprier quelque chose sans lenteur? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et comment va-t-on pouvoir écrire sans lenteur? Comment peut-on écrire sans linéarité? Un certain nombre d'auteurs ont essayé d'écrire plus sans rhizome, avec des digressions dans tous les sens, avec des échos, d'écrire plus musicalement que linéairement. Tout ça, c'est vrai que ça va changer. Ça ne veut pas dire que c'est un déclin. Ça ne veut pas dire que c'est un déclin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut explorer et qui, moi, me passionne. Et on est une génération où les deux vont coexister, ce qui est à la fois fascinant et un peu vertigineux et un peu déchirant, parce que forcément, il y a un peu de nostalgie et en même temps un peu d'émerveillement.
Eric Orsenna dit quelque chose d'important sur la modification du livre. Moi, je pensais tout à l'heure à Glas de Derrida, qu'on n'a pas encore lu ou qu'on ne sait pas encore lire, parce que je pense que Derrida a travaillé ce livre-là avec le début de Macintosh et des premiers ordinateurs. Et quand on aborde ce texte-là avec une logique linéaire, on n'arrive pas à comprendre ce livre. Quand on l'appréhende avec une logique d'arborescence, plutôt une logique rhizomatique, alors on comprend autre chose et autrement. Alors qui nous dit que dans quelques siècle peut-être, on n'écrira pas comme ça sur une logique arborescente, sur le principe d'une logique arborescente, plutôt que sur une logique linéaire. Ce qui tuerait effectivement d'une certaine manière le livre avec un commencement, un début, je veux dire une progression, une fin, enfin cette espèce de vieille logique à laquelle on consent, qui est de toute façon elle-même déjà très indépendante de la logique du XVIIe siècle. La rhétorique du grand siècle n'est pas du tout la rhétorique du XXe, et il se peut que la rhétorique du XXIIIe siècle ne soit pas la même, et elle sera induite et accompagnée par les révolutions numériques.
Michel Onfray, Éric Orsenna, vous êtes des auteurs, vous êtes des écrivains. On présente le livre électronique comme une future révolution dans les habitudes de lecture. Mais il est évident que cette révolution va toucher aussi vos habitudes d'écriture. Votre rôle va changer.
Ben pas pour moi, a priori, parce que je n'y songe pas. Mon éditeur m'a demandé si j'ai accepté qu'un de mes livres soit téléchargé. J'ai accepté. Mais c'est un livre écrit à la main qui se trouvera susceptible d'être téléchargé. Mais pas encore écrit de livre en pensant ce que pourrait donner un téléchargement. Et éventuellement, on pourrait même imaginer quelque chose de beaucoup plus large. C'est-à-dire quand on achète un de mes livres aujourd'hui, on n'achète pas tous les livres. On peut imaginer que dans la perspective du e-book, on travaille sur une logique de rhizome et d'interférence qui permettrait de faire fonctionner les autres livres d'une manière plus encyclopédique et plus riche. Je crois que ça, je n'y suis pas encore. Parce
quitte
que
à se faire sa propre anthologie de Michel Onfray.
Eh bien voilà, je pense que d'une certaine manière, une espèce d'interactivité qui permettrait à quelqu'un de dire cette thématique éthique, politique, ontologique, métaphysique m'intéresse chez cet auteur, je fais fonctionner une machine qui me produira un livre qui lui sera d'une certaine manière disséminé dans les autres, mais que la machine permettrait de fabriquer avec le vouloir du lecteur.
Éric Orsenna, vous êtes en quelque sorte, vous, un auteur qui est passé de l'autre côté du miroir en tant que vice-président de Cital.
Non, mais je continue. Moi, j'ai toujours été dans un travail parallèlement à l'écriture. Donc, avant, j'étais enseignant d'économie financière. Et puis, j'ai essayé de créer une petite maison d'édition avec Jean-Pierre Ramsay. Ensuite, j'étais dans des cabinets ministériels ou présidentiels. Donc, toujours un peu regarder un peu ce qui était dans le réel. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette proposition, j'ai bondi parce que c'était, je me pensais mal en 1450 me proposant d'être dans l'atelier de Gutenberg et fou de comme ça d'incunable. Ben, j'y aurais été, évidemment. Vous voyez, alors il y a dans un premier temps l'écriture, on dit bon, je viens d'écrire un livre sur les jardins, donc évidemment avec le livre électronique je peux immédiatement illustrer avec les plans des jardins, avec la musique, avec qui va avec des faits du 17 août 1661. Bon, très bien. Ça, c'est l'illustration. Mais ce que dit Michel, moi, m'intéresse beaucoup plus, c'est-à-dire la conception même. Et quand on voit le grand Ulysse de Joyce, qui est déjà du rhizome, mais c'est pas alors le matin et puis la fin du jour. Il y a une journée, Dublin, et puis il y a le monde entier de Dublin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conception même de ça. Et c'est vrai que je me dis que peut-être avec cette technique-là, la conception du roman qui était déjà chez moi assez voyageuse et diverse et pleine de digressions, va peut-être changer. Comme dans des tas d'autres histoires de l'art, une technique a relancé complètement la création. Et on peut, pourquoi déclin ? Non, il y a un changement, on explore. On explore, on a un bateau pour aller plus loin, et bien on va plus loin. Ça n'empêche pas qu'on est content de revenir.
Puis il y a la vieille opposition de Marx qui disparaît entre la ville et la campagne. Éric parlait tout à l'heure du bout du monde. Moi, j'y suis, au bout du monde en permanence. Je vis en province. Et je dirais la possibilité, pourvu qu'on ait l'électricité, ce qui est tout de même le cas maintenant en Normandie.
Et un modem.
Et une prise de téléphone, voilà. La possibilité d'accéder aux plus grandes bibliothèques, aux plus grands livres, immédiatement, sans avoir à commander, à attendre. Solliciter un livre en permanence. Moi, je trouve ça très intéressant. On n'a plus cette opposition entre les villes et les campagnes, le rural et l'urbain, les gens qui ont, les gens qui n'ont pas, les gens qui peuvent accéder, les gens qui ne peuvent pas accéder. Là, d'une certaine manière, l'accès est immédiat et simplifié.